Voilà, je propose que nous commencions. Bonsoir à tous. Bienvenue pour cette 72e soirée d'éthique publique, la deuxième de cette année universitaire des facultés jésuites de Paris, en partenariat ce soir non seulement avec la revue Études, mais aussi la revue Projet, éditée par le CERAS, le Centre de Recherche et d'Action Sociale. Bienvenue aux familiers de ce rendez-vous mensuel et à ceux qui nous rejoignent pour la première fois, ici dans les locaux du Centre Sèvres ou par la voie de la retransmission en direct ou en différé dans plus d'une dizaine de lieux en France et même à l'étranger. Le mois passé, pour commencer l'année, nous nous sommes intéressés à la question de l'éducation avec un angle particulier mais fondamental pour l'avenir, celui de la morale. Peut-on former une conscience morale à l'école ? Le mois prochain, le mardi 6 décembre, nous retournerons vers cette région si importante et si blessée qu'est le Moyen-Orient, en nous intéressant à l'un des acteurs importants de cette région. Je veux parler de la Turquie. Où va la Turquie ? Quel jeu joue-t-elle, pourrait-on dire ? Ce sera le mardi 6 décembre. Aujourd'hui, c'est la vie politique de notre pays qui va retenir notre attention. Inutile de rappeler l'actualité en ce domaine, alors que le débat politique est tout orienté vers la préparation des prochaines élections présidentielles et législatives. La récente publication du document du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, intitulé « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique », qui est paru il y a 3 semaines environ, pose un diagnostic sur l'état de notre pays et invite à réfléchir à la parole et l'engagement des chrétiens dans la société. Alors ce n'est pas la première fois que les évêques de France écrivent et prennent la parole sur les questions politiques. Ce fut par exemple le cas dans les années 70 avec un document important intitulé « Pour une pratique chrétienne de la politique ». Et près de 20 ans plus tard, elle a de nouveau pris la parole dans un contexte différent. À ce moment-là, il ne s'agissait plus de préciser le cadre et les limites de l'action politique, mais au contraire, de réagir déjà contre la désaffection envers la chose publique, le retrait dans la sphère privée, l'individualisme. Ce fut la déclaration politique, l'affaire de tous. Et apparaissait alors la formule qui sera reprise quelques années plus tard dans une autre déclaration, il faut réhabiliter la politique. Et puis à côté de ces textes importants, l'Église de France a également pris position à plusieurs reprises sur divers sujets concernant la vie en société, la recherche du bien commun, sur la défense de la dignité et de la vie humaine du début à la fin, la protection de l'étranger, le souci des plus pauvres en matière de solidarité, de justice, de paix. Aujourd'hui, et je cite ici le texte des évêques, la situation de notre pays, disent les évêques, nous conduit à parler de nouveau. Plus que jamais, nous sentons que le vivre ensemble est fragilisé, fracturé, attaqué. Ce qui fonde la vie en société est remis en cause. Les notions traditionnelles et fondamentales de nation, patrie, république sont bousculées et ne représentent plus la même chose pour tous. Alors même que l'aspiration au débat est forte, il semble devenu de plus en plus difficile de se parler. Les sensibilités sont exacerbées et la violence, sous une forme ou sous une autre, n'est jamais très loin. Au-delà des échéances politiques à venir, où les débats de fond risquent toujours de devenir otages de calculs électoraux, c'est à une réflexion plus fondamentale sur le politique en lui-même qu'il nous semble urgent d'inviter. Pour un tel chantier, chacun doit s'interroger et prendre ses responsabilités. Nous ne pouvons pas laisser notre pays voir ce qui le fait tenir, risquer de s'abîmer gravement avec toutes les conséquences qu'une société divisée peut connaître. C'est un travail de refondation auquel il nous faut ensemble nous atteler, mais rien ne pourra se faire sans un regard lucide sur la situation. Parole assez grave donc de la part des évêques dans ce document que beaucoup ont peut-être eu l'occasion de lire, et si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à le faire. Vous avez vu que vous pourrez vous procurer ce document à la sortie. Ce document qui s'adresse aux habitants de notre pays, et pas seulement aux chrétiens, et qui met en lumière un certain nombre d'éléments de dysfonctionnement de notre société, et qui formule clairement l'ardente nécessité de prendre soin du contrat social en retrouvant le sens profond du politique au-delà de la simple gestion et au-delà, bien sûr, de gesticulations qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Les chrétiens, c'est dans leur gène de croyants, pourrait-on dire, ne peuvent se désintéresser de l'évolution, de l'avenir, de la vie en société. Ils ont à dire ce qu'ils pensent et s'engager pour faire vivre le lien social. Alors, bien sûr, les chrétiens ne pensent pas tous la même chose, sont sensibles à des enjeux et à des réalités différentes, s'engagent éventuellement dans des domaines différents qui peuvent parfois paraître sinon opposés, en tout cas bien loin les uns des autres. En fait, comment se situer comme chrétien? Quel type de parole faut-il avoir? Qu'est-ce que les chrétiens ont aujourd'hui de plus précieux à apporter au débat public? Il n'y a sans doute pas d'avis, de réponse unique, mais je crois qu'il est bon, il est nécessaire que nous puissions en parler, regarder lucidement notre rapport à la politique et échanger dessus. Alors pour essayer de nous éclairer mutuellement ce soir, cette soirée qui, je le rappelle, est en partenariat avec la revue Projet, qui a pris position sur les enjeux politiques, puisqu'elle a publié en octobre dernier un très intéressant numéro que vous pourrez vous procurer également à la sortie, intitulé « Extrême droite, écouter, comprendre, agir ». Eh bien, nous sommes heureux d'accueillir nos invités ce soir. D'abord, Philippe Portier, que nous avons déjà eu la chance d'accueillir ici. Je crois que sur une des affiches, il était indiqué que c'était le père Philippe Portier. Alors, sauf un scoop ce soir, qui indiquerait qu'il est rentré éventuellement dans la compagnie de Jésus, tant qu'à faire, Philippe n'est pas jésuite et n'est pas prêtre. Mais il est agrégé de sciences politiques. Et vous êtes depuis 2007 directeur d'études à l'École pratique des hautes études, où vous occupez la chaire Histoire et sociologie des laïcités. Depuis 2008, vous êtes directeur du groupe Société, Religion, Laïcité. Vous êtes également professeur à Sciences Po, où vous enseignez la théorie politique. Et vos recherches portent notamment sur l'analyse comparée des régimes de sécularité, la laïcité française, la relation religion-politique et la sociologie du catholicisme. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, tous extrêmement éclairants. Je ne ferai que citer les deux derniers. « Métamorphose catholique, acteurs, enjeux et mobilisation depuis le mariage pour tous » aux éditions de la Maison des sciences de l'homme en 2016. Et « L'État et les religions en France, une sociologie historique de la laïcité » aux presses universitaires de Rennes. Vous étiez hier à Lourdes pour plancher devant les évêques, précisément sur le lien entre société et religion. Nous mesurons la chance de vous avoir ce soir avec nous, qui ne sommes pas évêques, et cela dans un agenda que je sais particulièrement rempli. Merci beaucoup, Philippe. Avec nous également Marie-Noëlle Lindemann, vous êtes une femme engagée. Vous tenez cela pour partie sans doute de vos racines familiales, notamment un oncle maire de Belfort, un grand-père au comité directeur de la SFIO, une grand-mère résistante, survivante de Ravensbrück. Vous-même, vous avez été députée de l'Essonne, conseillère régionale de la région Nord-Pas-de-Calais, conseillère générale, maire d'Athis-Mons, députée européenne, vice-présidente même du Parlement européen, ministre déléguée au logement et au cadre de vie dans le gouvernement de Pierre Bérégovoy et secrétaire d'État au logement dans le gouvernement de Lionel Jospin. Vous êtes membre, pourrait-on dire, de l'aile gauche du Parti socialiste. Vous êtes aujourd'hui sénatrice de Paris et vous êtes d'ailleurs candidate à la primaire socialiste. Vous n'avez jamais caché vos convictions chrétiennes, mais aussi votre distance par rapport à l'institution Église. L'arrivée du pape François vous a fait un peu bouger sur ce point. Vous lui avez rendu hommage à plusieurs reprises pour son engagement envers les plus faibles et contre la marchandisation de l'humain. Alors pour la petite histoire, j'ai retrouvé un extrait d'une interview de vous sur Europe 1, le 2 octobre 2013, où à la question « Vous regrettez que François Hollande n'ait pas fait d'études poussées chez les jésuites ?» Vous auriez répondu en riant « D'une certaine façon, oui. » Et vous avez ajouté à propos de la manière de procéder du pape François « Le jésuite sait à la fois manier la subtilité et la simplicité dans la communication, ce qui est nécessaire dans le monde contemporain. Il ne faut pas lâcher sur le fond de ce qu'on veut défendre, mais savoir communiquer avec simplicité pour être compris de tous. » Alors évidemment, après cela, il était difficile de ne pas vous inviter. Plus sérieusement, vous nous direz comment vous avez reçu le texte des évêques et comment vous voyez à partir de votre expérience l'engagement du chrétien dans la cité, ce que les chrétiens ont à apporter au débat public. Merci de votre présence avec nous ce soir. Enfin, je suis très heureux d'accueillir M. Charles de Courson, qui il y a quelques jours a accepté de déplacer un engagement important pour répondre à notre sollicitation et être avec nous ce soir. Merci beaucoup. Vous êtes issu d'une famille qu'on pourrait dire à la fois républicaine et catholique, qui a toujours porté le souci de l'engagement pour ses convictions et le service de son pays. Une famille de parlementaires, une famille de résistants aussi. Votre père, résistant de la première heure. Votre grand-père maternel également, député du Doubs, qui fut l'un des 80 parlementaires à avoir refusé les pleins pouvoirs au maréchal Pétain en 1940 et qui mourut en déportation. Vous-même, vous vous êtes engagé à votre tour dans la voie politique et le service du pays. Énarque, major de l'ESSEC, vous serez magistrat à la Cour des comptes. Votre parcours vous conduira aussi à la direction du budget et vous serez au cabinet du ministre de l'Industrie, Alain Madelin. Au plan local, vous succédez à votre père, à la mairie de Vanneau-les-Dames, dont vous êtes aujourd'hui toujours le maire, mais vous êtes également député UDI de la Marne, secrétaire de la Commission des Finances et vice-président du Conseil Général. En 2012, vous recevez le prix de l'éthique de l'association Anticor pour votre action en faveur de l'obligation de fournir des justificatifs en matière de frais professionnels pour les députés. Vous qui avez dénoncé aussi bien l'affaire Tapie que l'affaire Cahuzac, vous n'hésitiez pas à dire dans une interview au journal La Croix en 2013, je cite, « Je connais le monde de l'argent, j'en suis issu, j'en connais les limites. En politique, il ne faut pas succomber aux pressions, y compris celles de vos amis qui veulent vous faire des choses contraires à vos convictions et à vos consciences. » Dans ce même interview, parmi les deux, trois choses qui sont des preuves de l'existence de Dieu, outre la création et l'amour, le chrétien que vous êtes ajoutait « la capacité des hommes à faire le bien, mais aussi à faire le mal ». Et vous continuez en disant que les trois tentations de l'être humain, ce sont les trois tentations du Christ, la tentation économiste, matérialiste, la tentation du pouvoir, la tentation de se prendre pour Dieu, ce qui conduit au mal absolu. Merci d'être avec nous ce soir et de nous dire comment vous voyez la place, l'apport des chrétiens dans la vie publique. Voilà, les présentations étant faites, eh bien, il est temps de vous laisser la parole, un quart d'heure environ d'intervention chacun, avant le temps du débat entre nous tous, et je laisse la parole à Philippe Portier.
Merci, merci cher François. Mesdames et messieurs, je voudrais commencer par une citation d'un grand sociologue allemand, Ulrich Beck, qui écrivait dans « La société du risque », son ouvrage majeur, « Le non-politique a tendance à occuper la place traditionnellement dévolue aux politiques ». Et il y voyait une sorte de tragédie de notre époque, cette idée que nous ne serions plus, nous, citoyens, dans la situation de réguler nos propres existences, mais que de l'extérieur de nous-mêmes viendraient finalement d'autres instances pour nous indiquer un chemin que nous n'aurions pas nécessairement choisi. Il parlait du règne du marché, il parlait du règne de la science, il parlait aussi du règne d'un religieux tribalisé qui faisait valoir, qui fait encore valoir, son rapport exclusif à un Dieu également exclusif, loin du bien commun que pourrait dessiner le politique. Précisément dans cet ouvrage, dans un monde qui change, retrouver le sens du politique, la commission permanente de l'épiscopat entend inverser le cours de ce déclin. Elle entend redonner, à la manière de Claude Lefort, dans l'invention démocratique, sa dimension architectonique à l'idée même de politique. Avec ce principe, au fond, que c'est le politique qui donne à notre existence collective son mode de représentation et son mode de structuration. Loin, finalement, des autres sphères que j'évoquais à l'instant en citant Ulrich Beck. Cette approche, au fond, n'est pas nouvelle dans la pensée de l'Église catholique. Elle fait fond sur une vieille tradition aristotélico-thomiste, qu'avait exprimé de la sorte dans Quadragesimo Anno le pape Pie XI. La politique est la forme la plus élevée de la charité. Finalement, les évêques en France, depuis la Troisième République, ont régulièrement suivi cette piste. Et tout au long de la Troisième, de la Quatrième République, on voit des textes émerger et nous appeler finalement à prendre au sérieux la dignité du politique en tant que le politique permet de donner représentation et structuration à nos existences individuelles et collectives. C'est aussi le chemin qu'ont suivi les évêques sous notre Cinquième République. François Bouédec évoquait à l'instant ce texte nodal sur lequel je reviendrai pour une pratique chrétienne de la politique en 1972. D'autres textes importants sont venus depuis. On pense par exemple à réhabiliter la politique et puis récemment, dans un monde qui change, retrouver le sens du politique. Alors on voit bien que sur un siècle, face à la modernité qui s'avance, l'Église est intervenue. Elle est intervenue toujours avec cette idée que c'est à partir de la dimension architectonique du politique qu'il faut que nous construisions nos propres existences. Une question se pose. Est-ce que ce siècle s'inscrit dans une parfaite continuité? Est-ce que ce texte, dans un monde qui change, retrouver le sens du politique, se place dans une adéquation parfaite avec ce que disaient les évêques au début du XXe siècle? C'est sur cette question que je voudrais tenter de m'interroger pour fixer un cadre peut-être historique à la réunion de ce soir et en vous proposant une réponse finalement ambivalente. En vous disant que le texte que nous avons lu marque probablement une rupture forte, une rupture décisive avec les discours de l'époque pré-conciliaire et qu'il dessine, ce texte, une sorte de parcours vers une religion qu'on pourrait appeler une religion réflexive, qui récuse finalement le modèle injonctif, univectoriel, descendant, qui caractérisait les textes de l'Église du début du XXe siècle. Mais en même temps, ce que montre ce texte, c'est une continuité profonde d'inspiration dans la pensée chrétienne du politique. Cette idée qu'il faut récuser le subjectivisme moderne, cette idée qu'il faut en finir avec un libéralisme sans rivage ni limite, cette idée qu'il faut substituer probablement au principe d'une subjectivité close, repliée sur elle-même, le principe de l'altérité. C'est autour de ces deux points, finalement, que je souhaiterais organiser le petit développement que je vous propose ce soir, vous montrer qu'il y a dans ce texte un refus de la tentation normative et qu'il y a, parallèlement, dans ce texte, un refus de la tentation relativiste vers laquelle nous conduit très souvent notre époque sans limite ni rivage. Refus tout d'abord de la tentation normative. J'entends par tentation normative ce dessein qui fut le propre de l'Église d'avant le Concile, souvent, de vouloir recouvrir la totalité de nos existences individuelles et collectives par une vérité qui ne se discuterait pas, par une culture de l'injonction davantage que par une culture du débat, par un effet automatique, au fond, de la propre vérité de l'Église. Ce modèle s'est exprimé assez largement jusqu'au Concile Vatican II, avec cependant une atténuation dans les années 1950. On peut dire que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et ce texte, comme ceux que je citais tout à l'heure pour une pratique chrétienne de la politique, réhabiliter la politique aussi en 1999, ce texte-là vise à substituer à l'idée de vérité autour de laquelle il faudrait organiser nos existences un modèle plus pluraliste, plus dialogique d'organisation de notre vivre ensemble. Alors, il milite tout d'abord, ce texte, en faveur du pluralisme interne. Il milite d'autre part en faveur de ce qu'on pourrait appeler un pluralisme externe. Pluralisme interne. Il fut un temps dans l'Église catholique et dans la pensée de l'épiscopat en France où l'on estimait qu'il fallait ne pas faire le partage entre le citoyen et le croyant. C'est cette idée que l'Église devait s'organiser comme une armée en ordre de bataille, les laïcs devant suivre en tout le discours de l'épiscopat. Positivement, il fallait s'ordonner dans ses actes, dans ses paroles, dans ses votes même, à l'injonction épiscopal. On ne pouvait pas faire le distinguo entre le citoyen qui intervenait dans la sphère publique et le croyant, dont le propre était toujours de vivre dans l'obéissance aux règles de la hiérarchie. Négativement, on ne pouvait donc pas accorder son suffrage, donner sa voix à ce qu'on appelait alors les ennemis de l'Église. Et tout cela s'accompagnait très souvent de la menace de peine canonique, comme cet évêque de Bayonne qui, au début du siècle, estimait que donner sa voix à un républicain serait probablement se condamner pour l'éternité, car, disait-il, cela criait vengeance vers le ciel. Nous n'en sommes plus là aujourd'hui, et le mot de la mère de François Mauriac, au moment de la rupture de l'Action française, est tout à fait, finalement, dépassé aujourd'hui. La mère de François Mauriac disait, alors qu'on lui demandait de rompre avec l'Action française, « Entre ma conscience et l'Église, je choisirai toujours l'Église ». On voit bien qu'aujourd'hui, nous n'en sommes plus exactement là, que le Concile a passé là et que depuis les années 1960-1970, nous sommes entrés clairement dans le monde du pluralisme interne, celui que Yves Congar appelait le monde de l'herméneutique. Pour une pratique chrétienne de la politique, en 1972, les évêques montrent très bien qu'il faut réévaluer le choix politique du chrétien en leur laissant, au fond, à ces chrétiens, la possibilité, en fonction de leur solidarité matérielle, en fonction de leur solidarité temporelle, la possibilité de choisir, sur le terrain politique, leur propre chemin de vie. Depuis lors, ce mouvement s'est maintenu, et jamais, sauf parfois dans les années 1980-1990, quand il s'est agi de voter pour le Front National, jamais les évêques ne sont plus intervenus dans la sphère de la décision électorale. La parole est simplement offerte par l'épiscopat aux chrétiens dans le cadre d'une herméneutique où chacun, finalement, fait droit à sa propre subjectivité. Le texte de l'épiscopat que nous devons commenter aujourd'hui, dans un monde qui change, retrouver le sens du politique, se contente de donner des éléments de réflexion et non plus d'imposer des injonctions qu'il faudrait en tout nécessairement respecter. Ce desserrement du lien vaut aussi ad extra dans le rapport que l'Église peut avoir avec la société. Dans ce rapport-là, l'Église défend un modèle qu'on pourrait dire celui du pluralisme externe. Alors, dans l'âge ancien des choses, disons pour faire simple, dans l'âge préconciliaire, l'Église ambitionnait de recouvrir en maîtresse de vérité la société tout entière. Cela prenait la forme d'une culture hiérocratique, trouvant son point d'aboutissement dans la thèse bien connue de l'État catholique. Une thèse de l'État catholique qui s'articulait autour de deux notions. Cette idée qu'il fallait imposer l'unité de foi dans la société, cette idée aussi qu'on ne pouvait pas soumettre la norme juridique à une culture de la délibération, à une culture du débat. La norme juridique était attachée à un ordre transcendant, à un ordre objectif qu'on ne pouvait pas soumettre à la libre discussion des opinions. Or, depuis le Concile, depuis Dignitatis Humanae, depuis Gaudium et Spes, on n'en est plus là. Et le texte que nous travaillons aujourd'hui ensemble confirme très clairement ce point. On le voit en particulier sur la question de l'unité de foi. Jamais, jamais cette notion n'apparaît dans le texte, qui milite au contraire en faveur de l'acceptation du pluralisme religieux. Cette idée que nous vivons désormais dans un monde de l'effervescence culturelle et religieuse qu'on aurait tort finalement de vouloir réduire autoritairement. Le texte ne cesse de nous dire qu'il faut toujours articuler l'unité vers laquelle nous tendons à une pluralité aujourd'hui existante et probablement nécessaire pour la compréhension mutuelle. Pluralisme religieux, mais aussi pluralisme politique. Il y a dans ce texte une adaptation de l'Église à la culture de la discussion et probablement, pour reprendre une expression de Jürgen Habermas, une adaptation au principe de fallibilité. Cette idée qu'il ne peut pas y avoir de décision a priori à partir d'une conception absolutisée de la vérité. Non, nous dit la commission permanente, ou conseil permanent de l'épiscopat, il faut militer en faveur d'une culture de la délibération, en faveur d'une culture du débat, sachant que la vérité est toujours un point d'aboutissement et jamais un point de départ qui viendrait limiter nécessairement notre inventivité politique. Il y a un mot très important dans ce texte que je voudrais vous citer. Le bien commun doit trouver son fondement dans un véritable débat. C'est un point, évidemment, qu'on n'aurait pas trouvé de la sorte dans les textes d'avant les années 1950-1960. Alors, s'agit-il, comme le disait ce matin encore un texte de riposte catholique, de faire droit à un éthos strictement relativiste? Faut-il considérer, à partir du moment où l'on accepte la pluralité interne et la pluralité externe dans la société contemporaine, que l'Église soit désormais rendue à un subjectivisme sans rivage, ouvrant nécessairement sur un monde de la relativité absolue? Je voudrais essayer de vous démontrer qu'on n'en est pas là dans ce texte du tout, et que précisément cette culture du débat ne cherche pas, absolument pas, à nous ancrer dans un monde de l'illimité, dans un monde où chacun pourrait agir à son gré, suivant une systématique du sujet libéral, mais dans un monde au contraire où la subjectivité doit toujours faire signe vers l'altérité. De sorte que nous trouvons là un moment de continuité, une séquence de prolongement de ce qui existait probablement dans l'Église d'avant le Concile, lorsqu'il s'agissait, contre le monde d'une modernité libérale effrénée, d'affirmer la possibilité d'un monde personnaliste et communautaire. Ce que dit le texte dans cette formule que je vous restitue, nous luttons pour que l'être humain puisse se réaliser comme personne au sein d'une communauté solidaire. Vous avez là trois concepts extrêmement importants. Personne, communauté, solidarité. Et c'est autour de ce point, autour de ces points, que doivent se construire les cultures du débat faisant signe vers la vérité qu'il s'agit désormais de construire. Alors comment construire cette culture du débat faisant signe vers l'altérité à l'instant signalé à travers les concepts de personne, de communauté et de solidarité? À partir, me semble-t-il, d'une double réarticulation. D'abord, une réarticulation du politique et du religieux. Le schéma d'aujourd'hui, qui est fondée sur la systématique des intérêts, très souvent, sur la systématique des subjectivités sans limite, repose parfois sur la croyance dans une laïcité étroite. Cette idée, finalement, qu'il faudrait totalement privatiser la sphère religieuse et parallèlement totalement neutraliser la sphère sociale. Le texte revient sur cette proposition de notre contemporanéité et estime très clairement qu'il ne faut pas accepter cette laïcité restrictive que le texte appelle laïcité étroite. Elle dit au contraire qu'il faut défendre le principe d'une religion publique, ce que nous faisons ce soir dans le cadre de cette séance d'éthique publique où précisément le religieux se confronte aux enjeux de la sécularité. Et le texte nous le dit en affirmant un double argument, un argument juridique. Tout d'abord, nos sociétés, marquées par la démocratie constitutionnelle, ne peuvent accepter la laïcité étroite parce que ce serait interdire l'expression de nos identités, des identités qui doivent être protégées dans le cadre d'une société qui, sur le fondement de la Déclaration des droits de l'homme, entend rendre chacun à son autonomie. Au fond, la thématique de la reconnaissance, qui est le propre de l'époque qui émerge dans les années 1970-1980, se situe dans le prolongement des promesses de 1789. Il y a une autre raison, c'est qu'à l'argument juridique s'ajoute un argument éthique qui doit faire barrage, nous dit le texte, à une laïcité considérée dans son étroitesse. Cette idée, finalement, que, je recite ici Jürgen Habermas, la religion nous apporte la conscience de ce qui manque, et qu'à travers le religieux, puis peut se mettre en place une discussion autour du bien à un moment où la simple réflexion à partir de l'articulation des subjectivités ne suffit plus pour dessiner un horizon de sens. Le religieux n'impose rien, nous dit le texte, il nous permet de construire du sens à partir de ses ressources propres, à partir de ses traditions singulières, un sens qui va venir pénétrer le débat public et probablement, à terme, enrichir la décision publique. C'est cet apport à la constitution du sens que défend, me semble-t-il, la commission ou le conseil permanent de l'épiscopat. Réarticulation entre le religieux et le politique, mais ce qui me semble également très important dans ce texte, c'est la volonté de réarticuler le religieux, de réarticuler le politique et l'éthique. On a tendance à vivre aujourd'hui suivant le seul principe de l'axiomatique des intérêts. Et c'est ce que dit très souvent le texte lorsqu'il propose une théorie critique de la société dans laquelle nous sommes engagés. Cette idée que nous ne vivrions aujourd'hui que dans la juxtaposition des intérêts. Nous disposerions de droits, mais que nous brandirions comme des armes, sans considérer que ces droits sont toujours des droits vers autrui, dans le cadre d'une liberté que Claude Lefort appelait une liberté de communication et de solidarité. Alors, on est finalement confronté à cet univers où nous devenons, par le fait d'exalter des droits qui ne s'ouvrent sur rien, où nous devenons, pour reprendre l'expression leibnizienne, des monades sans fenêtre. Le texte vise précisément à faire de nous des monades ouvertes sur l'altérité. Et le texte le fait à deux niveaux. Tout d'abord en réévaluant le concept du politique et en repensant le concept de la politique. Alors, le politique, la politique, Raymond Aron, dans son texte fameux « Démocratie et totalitarisme », opposait les deux notions en utilisant deux mots, en employant deux mots anglais. Le politique, disait-il, c'est « politics ». Cette idée, précisément, qu'il faut toujours penser le réel, dans lequel nous sommes embarqués les uns et les autres, à partir d'un mode spécifique de structuration de nos existences collectives. Mode spécifique de structuration de nos existences. Quel est le mode aujourd'hui de structuration de nos existences? Le texte le disait à l'instant. Cette idée précisément qu'on peut organiser la société à partir d'un modèle unilatéralement libéral. Cette idée que nos intérêts nous suffisent, que nos droits nous placent en sujet souverain, auto-centré et auto-référentiel, sans que jamais, au fond, l'horizon de l'altérité n'y apparaisse. Le texte nous dit « Retrouvons le sens de la res publica ». Le mot « république » revient. Alors on pourrait dire « Mais est-ce un retour à la Troisième République ?» Non, le mot « république » renvoie à une structure bien plus profonde. Cette idée de la res publica qu'on voit déjà apparaître sous la Rome antique et qui renvoie à cette idée que les droits individuels, que les intérêts ne sont pas le tout de l'homme, mais qu'ils doivent toujours s'insérer dans un cadre supérieur qui est le cadre du bien commun. Première idée. Puis la seconde idée, c'est que la notion de république nous renvoie à un englobant supérieur auquel nous devons attacher nos existences, qui est l'englobant de la loi. Une loi qui vient structurer notre rapport à autrui, notre rapport à la cité, notre rapport au devenir. C'est autour précisément de cette définition du « politics », comme disait Raymond Aron, de ce mode de structuration de la société que se construit en partie le texte des évêques. Reconstruire le politique, sortir d'une conception strictement libérale de notre existence collective pour embrasser enfin, de nouveau, une existence de type républicain. S'ajoute à cela une recomposition, une reconfiguration de la politique. La politique, c'est un mode d'application du politique. Cette idée, décrite par Raymond Aron comme étant « policies », les politiques publiques que nous mettons en œuvre, que les gouvernants, que les décideurs publics mettent en œuvre sur le fondement de cet englobant que j'évoquais tout à l'heure, la République. Comment mener une politique républicaine? Les évêques ouvrent des pistes, non point des injonctions, comme je le disais tout à l'heure, des pistes. Des pistes à deux niveaux, qui nous amène à remettre en cause le scénario de la fermeture de soi sur soi. Le scénario qui nous guette d'une société qui finalement réinstaurerait des murs, reconstruirait des frontières, quand il s'agit au contraire de restaurer des ponts. Et ces ponts, on les voit se construire à deux niveaux. Au niveau des politiques publiques envisagées par les évêques et que souvent, malheureusement, la classe politique ne pointe pas avec suffisamment d'attention. Cette idée d'abord qu'il faut lutter contre les frontiérisations culturelles, contre les fermetures d'une culture homogène sur sa propre culture homogène. Nous sommes aujourd'hui dans le monde de la pluralité, nous n'en sortirons pas, et ce monde de la pluralité, nous devons le prendre au sérieux. Nous devons le prendre au sérieux dans le cadre d'une communauté, on retrouve le concept que j'évoquais tout à l'heure, une communauté qui accepterait chacun dans sa différence, pour peu que cette différence ne se traduise pas par la négation des droits d'autrui, pour peu aussi que cette différence ne se traduise pas par l'irrespect des principes constitutionnels qui lui permettent de s'organiser. Et il y a là un modèle qui est un modèle tout à fait original, qu'on pourrait trouver chez des auteurs comme Will Kimlicka, par exemple, qui vise à faire émerger des liens d'unité au sein même de notre diversité. Et on voit en quoi, précisément, ce discours-là tranche avec les discours de la refrontiérisation qui sont aujourd'hui opposés à la mondialisation qui nous guette de toutes parts. Pas de frontières culturelles, abaissement aussi des frontières sociales. Notre société est martyrisée. Elle est martyrisée par une crise économique qu'elle subit depuis maintenant 30, 40 ans, avec un double effet que nous connaissons les uns et les autres, l'effet d'une périphérisation géographique. Les sociétés qui, hier encore, pouvaient vivre dans une certaine mixité, se trouvent désormais marquées par des sécessions géographiques, qu'on peut tout à fait repérer. Un certain nombre de thèses ont été écrites sur cette question. Je pense par exemple aux travaux de Christophe Guilly sur la France des périphéries. Nous, métropole centrale, nous, métropole régionale, ouverts au grand vent de la mondialisation, tolérants, ouverts probablement à l'altérité, puis d'autres France qui vivent en marge de cette France de la prospérité. Et s'y ajoute aussi, c'est ce que dit le texte des évêques, la fameuse spirale du déclassement. Cette idée finalement que demain ne sera pas meilleur qu'aujourd'hui et que peut-être aujourd'hui est pire qu'hier. Autant d'éléments qui portent les évêques à retrouver le sens d'une régulation politique du social, à partir précisément de cet éthos républicain qui conduit la loi à travers les appareils administratifs, à travers ce qu'on appelait sous la Troisième République le service public, qui conduit précisément à réinvestir les espaces que la crise économique a laissés dans le dénuement. Voilà autant d'éléments qui montrent, je crois, l'importance de ce texte, qui pose un diagnostic, le lien social se défait, qui définit une méthode, la parole doit se renouer, l'éthique de la communication, non point au nom d'un principe de vérité préalable, mais au point d'une recherche qui se construit en commun, une fondation, enfin, cette idée de bien commun qui subsume finalement les droits individuels que nous détenons en propre. Alors ce texte n'est pas reçu de manière homogène par l'ensemble de la société française. Il suscite en effet les résistances de ceux qui vivent encore de la nostalgie des frontières. Mais pourtant il trouve un écho. Il trouve un écho dans la société précisément parce qu'il répond à une demande particulière, qui est la demande d'une compréhension globale de la société, qu'on pourrait dire au fond une compréhension du sens, sans que cette compréhension du sens ne nous ouvre jamais sur l'imposition d'une norme a priori qui nous serait imposée sans notre accord, sans la culture du débat que ce texte finalement aussi propose.
Merci, merci beaucoup Philippe Portier de nous avoir présenté de manière aussi claire ce texte. Je crois que ceux qui ne l'ont pas encore lu, eh bien, vont sûrement avec cette présentation, avoir envie de se plonger dans la lecture. Merci de nous avoir, de l'avoir situé dans la longue série de prises de parole de l'Église, une Église qui a évolué dans ses interventions sur la chose politique. Et vous nous avez bien expliqué combien le texte aujourd'hui est finalement le fruit de cette histoire, avec d'un côté le refus de la tentation normative, l'absence d'injonction, l'invitation au dialogue, à la délibération, et en même temps un texte qui rejoint la tradition profonde de l'Église, loin de tout relativisme, avec la mise en lumière d'un monde qui articule personne, solidarité, communauté, un monde qui retrouve le sens du politique comme mode de structuration, qui dénonce par exemple une économie sans frontières ou une laïcité étroite ou bien des discours de refrontérisation comme vous l'avez indiqué. J'en reste là, nous aurons l'occasion de revenir sur les points importants que vous avez mis en lumière, de voir aussi peut-être si les invitations des évêques sont finalement réalistes et comment concrètement nous pouvons avancer dans ce sens. Sans plus attendre, je laisse la parole à Marie-Noëlle Lidma qui va nous dire aussi comment elle a lu et reçu ce texte.
D'abord, bonjour et merci de nous avoir invités, parce que je crois que c'est très important que les responsables politiques puissent prendre du temps pour confronter avec des citoyens engagés, avec des gens qui essaient de placer le niveau politique à un niveau de choix de civilisation, de valeurs, de mode d'organisation de nos sociétés, et pas simplement dans la gestion des institutions à l'instant T. Alors, je suis toujours en délicatesse pour expliquer quel doit être le rôle des chrétiens parce que dans la politique ou quelle doit être leur place. Parce que d'abord, c'est bien qu'il y ait les chrétiens, et vous l'avez parfaitement expliqué, nous sommes bien dans la diversité interne et externe, et dans cette différenciation où chacun doit s'interroger au regard de son lien aux valeurs du christianisme, au message du christianisme, et puis ses liens ou non à l'Église en tant que structure. Et pour ma part, je m'interroge finalement assez rarement sur les liens entre mon engagement politique et mes convictions chrétiennes, peut-être par facilité, comme beaucoup, en pensant que c'est finalement assez naturel que ça s'organiserait, sans qu'on ait besoin à se replonger un peu régulièrement sur ce qui fonde l'individu qu'on est, qui est forcément un individu social et aussi, quand on est chrétien, un individu tourné vers Dieu. Et je trouve que le texte des évêques a cet énorme double mérite d'être quand même une alerte à la société française et aux chrétiens, mais au-delà, à l'ensemble de la société française. Et en même temps, j'espère que les responsables politiques verront dans ce texte aussi une façon de se réinterroger sur la manière dont ils organisent leur engagement et leur conception. La première chose qui m'a frappée, et finalement je crois que c'est une des choses que j'ai toujours considérée comme importante dans l'apport des chrétiens dans la vie politique, c'est le principe de l'espérance. C'est-à-dire, je crois que il me semble que le message de Jésus-Christ est un message d'espoir, de penser que le peuple de Dieu est en marche vers Dieu, et qu'il construit son avenir, et qu'il en est acteur, mais qu'en même temps il se projette dans ce que jadis on appelait le progrès, ou que d'autres peuvent dire marcher vers Dieu. Or, quelque part, c'est marcher vers la lumière, vers le mieux ensemble, un monde meilleur qui correspond mieux à nos valeurs. Or, le texte le dit très très bien, nous sommes pris d'un syndrome décliniste ou d'un syndrome que je dirais pessimiste, à la fois la peur du déclassement individuel, l'idée du déclin de la France, l'idée que l'humanité va dans un mauvais sens. Et de ce point de vue, les crises économiques, sociales et écologiques peuvent entretenir ce doute. Dans quel chemin allons-nous, puisqu'il semble qu'il y ait plutôt des risques, des menaces et des points négatifs qui apparaissent à l'horizon et qui peuvent entretenir ce doute profond. Et je crois quand même que la première des responsabilités d'un chrétien, c'est de chercher toujours ce qu'il y a, le ferment de lumière qu'il y a dans ce qui se passe dans la société, sans évidemment être aveugle devant les risques. Or, dans la période actuelle, à force de survaloriser tout ce qu'il y a de risque et de négatif, on néglige beaucoup ce qui peut être le ferment d'optimisme. Edgar Morin dit une chose que je crois, c'est juste en période de crise, il dit « le pire est probable, mais le meilleur est possible ». Et justement, tout l'enjeu, c'est de faire que le meilleur soit possible. Et que l'on ne soit pas là en train de contempler et que le pire est probable. Je le dis parce que je prends un exemple. J'ai été dans l'Ariège ce week-end pour visiter un centre d'accueil de jeunes migrants venant de Calais. D'abord, on voit à quel point les gens peuvent être cassés, perturbés, brisés, parce qu'ils peuvent avoir vécu à un point qui n'est pas que social, qui est dans leur être profond. Mais surtout, évidemment, quand le maire a fait la réunion pour l'accueil de ces jeunes, il y a eu des râleurs, beaucoup de gens qui avaient une forme de crainte devant l'incertitude, c'est qui, comment ça va se passer, etc. Mais en même temps, ils ont été submergés de dons. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui tellement de dons dans cette vallée, de gens qui ont amené des vêtements, de la nourriture, des autres, ils sont submergés. Alors vous me direz, c'est utile au Secours catholique ou au Secours populaire, mais c'est pour dire que ce qui est passé dans les médias, par exemple, est plutôt le point de résistance que le point d'apport généreux des gens. Et je prends cet exemple parce qu'il est assez contrasté, mais globalement, la question de l'espérance. Et derrière la question de l'espérance, c'est que se pose la question de l'engagement personnel. Je pense qu'un chrétien parie sur la nécessité d'un engagement personnel. Moi, j'ai toujours considéré que cet engagement personnel imposait à chacun d'entre nous, non seulement d'être en dialogue, en parole, et d'ailleurs des très beaux textes sur la parole, qui, à mon avis, mériterait même d'être approfondie sur la différence qu'il y a entre la parole et les mots, parce que nous sommes dans un monde où on vous juxtapose des mots, les communicants vous disent « voilà les mots repères ». Donc on met les mots repères qui sont censés parler aux gens, sans qu'il y ait une parole, c'est-à-dire la construction d'un lien entre une valeur, un projet, des mots et des actions. Donc en tout cas, je crois que la deuxième chose que les chrétiens vont faire dans un monde troublé comme il l'est, plus encore que d'habitude, c'est effectivement de s'engager dans ce que vous avez très bien dit, dans le politique, dans la chose commune, dans la construction du bien commun et dans la construction de nous. Alors, y a-t-il un nous ou des nous? C'est tout le débat aussi sur, à mon avis, qui est quand même un sujet qu'il faut qu'on approfondisse dans la société d'aujourd'hui, entre individus, personnes, communautés et res publica, qui n'est pas la même chose que la communauté. Parce que justement, nous sommes dans une période où, comme il y a une crise de l'idée du bien commun, de la communauté large et du concept même d'humanité, que nous appartenons à la même humanité, il y a une forme de crise de cette idée-là et on peut être amené à des retours communautaires, mais qui sont des formes d'entre-soi et qui coexistent sans construire cette idée générale de l'humanité. Je crois quand même que par rapport aux autres religions, la religion chrétienne et le catholique portent l'universalisme. C'est une idée qu'il faut qu'on défende à nouveau. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de nation, qu'on n'est pas européen, qu'on n'est pas attaché à nos territoires, à nos... Mais nous portons l'idée que l'humanité est une et que notre prétention est d'être acteurs, citoyens, personnes inscrites dans l'universalisme. Nous nous sentons comptables de tout ce qui se passe autour de nous. Je le dis parce que quand j'ai lu le texte, j'ai finalement trouvé qu'il était un peu franco-français. Et pourtant, je suis plutôt franchouillard de tempérament, je dois vous le dire. Mais je l'ai trouvé un peu franco-français parce que, justement, je crois qu'une des crises que nous vivons aujourd'hui, et vous l'avez dit sur les frontières, c'est la crise de comment nous nous situons en tant que communauté nationale, en tant que citoyen français, par rapport à ces grands mouvements qui chahutent le monde et la construction européenne elle-même. Et qu'il me semble qu'il faut s'interroger sur justement ce débat autour des frontières. Parce que la question des frontières pose deux questions. Il y a une question qui est liée à l'échange. Et vous le dites très bien, pas de frontières culturelles. Pour moi, enfin, jamais imaginé qu'on puisse... Il me semble important, à cause de cet universalisme de l'humanité, une et indivisible, il est nécessaire de justement porter le refus des frontières culturelles. Mais l'autre question, c'est comment l'homme participe à sa destinée. C'est-à-dire comment il est... Alors là, on peut rejoindre l'idée de citoyenneté. C'est-à-dire comment il est acteur de sa propre destinée et de la destinée collective. Mais quelle destinée collective ? Et l'État-nation ou la nation, elle a été quand même plutôt constituée, peut-être un peu de gré ou de force dans bien des cas, mais elle est devenue, avec le modèle républicain, l'espace où le collectif des citoyens prétendait pouvoir être acteur de la destinée commune et d'articuler les destinées individuelles par rapport à ces destinées communes. Or, justement, et là, je crois que nous sommes en train de vivre la fin d'un cycle ultralibéral, c'est-à-dire la globalisation libérale a quand même abouti à l'hyper-individualisation de citoyens un peu grains de sable dans un monde où ils ont le sentiment de ne plus avoir de réelle maîtrise sur ce qui va être leur devenir, leur présent et leur capacité de construire des solutions, une vision du monde dans lequel ils veulent s'insérer. Et ça a tellement fragmenté, tellement individualisé, mais surtout, d'une part ça fait ça, mais d'autre part ça met les individus en concurrence. Le principe même de l'ultralibéralisme, alors je suis évidemment pour qu'il y ait des échanges, du marché, etc. Mais quand vous en faites un système qui devient un système principiel et plus simplement un modus économique parmi d'autres, quand il devient principiel, eh bien vous attaquez, à mon avis, une question des êtres au bout d'un moment. Nous ne sommes plus simplement altères, mais nous sommes concurrents. Et en même temps qu'on est concurrents, il y a une espèce de marchandisation de tant de choses qu'on devient le même client de la même multinationale partout. Et donc on devient quelque part absolument pas altère dans nos modes de consommation, dans toute une série de banalisations qui s'opèrent, et on devient concurrent. Donc ça amène les gens à être atomisés. Le jeu, mais c'est pas seulement le jeu qui s'affirme comme autonomie pour contribuer au nous, ça devient le jeu qui se sent menacé par les autres. Et donc la construction du « nous », de mon point de vue, devient extrêmement difficile quand non seulement l'autre et votre voisin, il est différent, mais en plus, il est entre guillemets menaçant. Et je crois que c'est cette réaction qu'il faut qu'on ait de remettre de l'humanisme. Et d'ailleurs, il y a des très beaux passages sur la question de l'économisme, du chiffre, de cette façon de tout vouloir codifier en chiffres, en nombres, en argent, etc. Vous parlez du pape François, moi c'est une des choses qui m'a... J'ai senti son élection comme un immense appel. Alors bien sûr, tout le monde a bien repéré le discours sur la pauvreté, bon, qui évidemment, pour une femme comme moi, parle beaucoup, comme pour beaucoup de gens, et certainement pour vous. Mais je l'ai surtout entendu comme un sursaut de l'humanisme qui provoque le monde. Il me semble que nous devons être dans une phase où il faut que les chrétiens provoquent le monde par une exigence d'humanisme. Bon, alors après, on n'aura pas tous la même idée de comment on pense que cet humanisme doit, sur quel champ il doit s'affirmer. Moi, je serai plus attachée à son affirmation sur le champ économique et social. D'autres seront très attachés à son affirmation, par exemple, au débat sur ce qu'on appelle le transhumanisme par rapport à la science, qui vont quand même être des sujets. Alors moi, je suis une scientifique, donc j'ai plutôt spontanément confiance dans la science, mais en même temps, je sais bien que je n'ai pas de confiance aveugle dans la science et qu'elle doit être œuvre humaine, même s'il y a des constatations qui dépassent là. Donc moi, ce que je crois dans la période actuelle, il me semble que beaucoup de chrétiens peuvent attendre, c'est qu'on ait de nouveau ce souffle de la provocation humaniste qui n'ait pas peur d'affronter les systèmes quels qu'ils soient. Il y a eu un affrontement avec les systèmes totalitaires, qui a été l'affrontement de la milieu et fin du XXe siècle. Il me semble qu'aujourd'hui, on a un affrontement humaniste à voir par rapport à la tyrannie de l'argent, de l'avoir, de la finance, de la captation du pouvoir par des, même plus des États, parce que dans le temps, on disait qu'il y a l'impérialisme américain ou chinois et autres, ils ont toujours leur rôle, mais une forme d'impérialisme économique autonome que sont par exemple les multinationales, hein, qui ont un pouvoir sur notre vie considérable. Donc, par rapport à tout cela, il me semble que ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en effet, il y a un autre sujet. Moi, je crois quand même que la question de la pauvreté est insupportable et qu'il n'y a pas simplement l'humanisme en tant que valeur, il y a l'engagement dans le faire, dans le faire. Alors, si j'ai des critiques, entre guillemets, en tout cas des désaccords ou au moins des sujets qui méritent débat, c'est que je trouve les évêques très, très critiques sur notre système d'assurance de sécurité sociale. Par exemple, parce que comme je pense que combattre la pauvreté est un élément déterminant de la dignité humaine, je suis un peu plus moins critique que les évêques sur les systèmes d'assurance de sécurité sociale, d'indemnisation, montrent leurs limites. Quelles limites ? Parce que, pour être franc, quand vous prenez un système comme la sécurité sociale française, alors on peut avoir des heures, on en aura des discussions, si ça coûte trop cher, il y a du gaspillage, ça c'est sûr, c'est pas forcément ciblé où il faut, certainement. Mais enfin, c'est quand même aujourd'hui un des systèmes, alors on peut l'améliorer, je dis pas que, hein, que ça roule, mais donc je trouve que commencer à dire qu'il a atteint ses limites, je m'interroge. Je trouve que par exemple, sur l'autonomie des personnes âgées, l'extension du champ de la sécurité sociale ne serait pas malvenue. Je pense que sur un certain nombre de risques, on a besoin d'élargir le champ. Je pense par exemple que devant la fragilité du droit au logement, des formes contemporaines, c'est évidemment pas une administration brutale, etc., mais de sécurisation sociale sont devenues nécessaires au regard du droit au logement dans nos sociétés. Donc je trouve que et en même temps, il dénonce à juste titre que la disparition dans les villages des services de proximité sont un handicap. Je dis cela parce que il y a autour du débat sur l'engagement des chrétiens, il y a quand même à se poser la question des formes de solidarité. Alors moi, j'ai toujours aimé dans la devise républicaine française l'équilibre entre trois termes que je considère inséparables. Liberté, bon, ça va de soi. Égalité, enfin, ça va de soi. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute quand même sur le fait que c'est quelque chose d'essentiel. Égalité, et on voit bien quand même que le binôme liberté-égalité est un binôme déjà complexe à organiser, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, quand même, l'égalité recule. Hein, en tout cas, l'égalité réel dans bien des cas recule, mais il y a toujours le triptyque fraternité, parce que la fraternité, c'est pas l'État qui décrète la fraternité. L'État peut agir, la politique ou les politiques peuvent agir sur la garantie des libertés, peuvent agir pour des systèmes qui garantissent mieux l'égalité, mais la fraternité, ça ne se décrète pas, ça n'est pas une loi, c'est une valeur d'un autre ordre, mais que je crois fondamentale pour l'équilibre des choses, pour que justement l'individu ne soit pas simplement ni un citoyen qui bénéficie de droits, ni un citoyen qui a des devoirs, mais quelque chose de plus qui nous rapproche, à mon avis, d'une certaine idée de la personne humaine, c'est-à-dire quelqu'un qui considère qu'il est partie prenante, comme disent les anglo-saxons, engagé, qu'il est non seulement acteur du système public, qu'on organise, mais qui met de sa personne pour que le système public tienne. C'est-à-dire, il injecte de l'humain dans l'équilibre social, il injecte du personnel, de l'altérité, de la différence, de la complémentarité. Et je pense que dans nos systèmes sociaux d'aujourd'hui, si on veut que les gens puissent s'engager, il faut que la trame, le seuil de solidarité collective garanti par la puissance publique soit fort. Contrairement aux libéraux, je ne pense pas que c'est le risque qui rend les gens plus actifs, plus en initiative, plus en engagement, Je pense qu'au contraire, une certaine garantie de solidité et de stabilité et de l'éducation permet à nos concitoyens de mieux s'engager, de mieux participer et de peut-être aussi... Je vais terminer parce que j'ai été longue. Je pense quand même que, de ce point de vue, le texte de Jean-Paul II sur l'écologie est tout à fait important.
François.
Pardon. Ah ben, vous voyez, il y a quand même l'autre. J'avais quand même quelques sympathies, malgré tout, pour Jean-Paul II. Hein. C'était peut-être Benoît XVI avec lequel j'avais encore que... Bon, on pourra en discuter, mais je trouve que le fait qu'il ait démissionné, entre guillemets, est quand même une vraie révolution dans le rapport entre Dieu et l'homme, puisque le pape lucidement a décidé de considérer que Dieu lui demandait d'arrêter et il n'était pas entre les mains de Dieu au sens de passif à attendre que Dieu arbitre pour lui. Je pense que c'est un changement assez significatif du lien entre l'individu et l'Église. Mais bon, c'est une autre... Je vais terminer sur l'être, l'avoir. Je pense quand même que l'autre grande interpellation que les chrétiens peuvent apporter à la société contemporaine, c'est quand même une certaine sobriété dans le mode de consommation, un nouveau rapport à l'avoir, et quand même retrouver les moyens de revaloriser fondamentalement l'être. Mais l'être, tout seul, à part quelques... Et encore, ils sont en communauté, nos moines. Mais l'être a bien du mal à être vraiment s'il n'est pas en respiration, en vie avec l'autre. Et ça me paraît quand même être dans ce monde hyper consommériste, hyper financier, hyper accumulatif de biens, parfois inutiles et mal répartis. L'idée quand même que le grand objectif du catholicisme du XXIe siècle, c'est de redonner toute sa force à l'être dans la personne humaine, me paraît quand même être quelque chose qui est aussi un grand apport pour changer la politique et retrouver le sens du politique.
Merci.
Merci. Merci beaucoup Marie-Noëlle Lillemann de nous avoir partagé comment vous avez lu ce texte et comment il a été pour vous l'occasion un petit peu de regarder aussi votre propre engagement politique. Vous nous avez bien dit qu'il y a plusieurs choses qui vous ont touché, notamment cette invitation, ce principe de l'espérance, chercher toujours le ferment de lumière dans ce qui se passe dans la société, alors que ce qu'on retient, c'est souvent quand même le négatif. Et puis, cette insistance très forte sur l'engagement, le rappel de cette nécessité de s'engager pour faire tenir ensemble individus, personnes, communautés, respublica, face à cette fragmentation liée à l'ultralibéralisme de la société. Finalement, ce souffle, quelles que soient peut-être les limites du texte que vous avez pu aussi soulever, ce souffle de provocation que vous souhaitez pour les chrétiens d'un monde qui soit porté par un souci d'humanisme. Alors, à la fin de votre propos, vous avez pas mal insisté sur la notion de fraternité, on aura sans doute l'occasion d'y revenir, et donc le rôle de l'État, finalement, au service de cette fraternité et au service de l'engagement personnel, communautaire, pour la fraternité. Merci beaucoup. Je laisse la parole maintenant à Charles de Courson, qui va nous dire aussi comment il a reçu ce texte. Merci.
Effectivement, quand j'ai lu ce texte, j'ai trouvé ce texte déséquilibré. Déséquilibré parce qu'il est plus fort dans l'analyse de la crise du politique que dans les axes, solutions pour y remédier. Alors, je voudrais reprendre ces deux points. Parce que on ne peut pas répondre à la question que vous nous avez posée face à la crise du politique, quelle place ou quel rôle pour les chrétiens, sans commencer par analyser la crise et de voir est-ce que le document des évêques français correspond un peu à l'analyse qu'on peut faire de la crise du système politique français. Alors, tout d'abord, c'est vrai, et heureusement d'ailleurs, que les deux grandes idéologies qui ont ruiné notamment l'Europe, le communisme et le fascisme, sous toutes ses forces, disons les régimes totalitaires, ont ruiné et ils se sont affaissés. Je suis frappé, même quand je parle avec mes collègues communistes, ils n'y croient plus. Personne ne croit plus au communisme. Voilà. Et le fascisme, bon, il y a des retours. hein, et pas simplement en France, mais qui se représente sous la force d'un nationalisme agressif. Et j'en reviendrai tout à l'heure. Mais enfin, les deux grandes idéologies qui ont ruiné l'Europe se sont effondrées. Mais dans l'analyse de la crise, je crois qu'il y a une véritable perte de la notion du bien commun. Et ça, je pense que le texte des évêques le souligne, au profit d'une conception, moi je dirais pas libérale, à la différence de Marie-Noël Lindemann, je dirais libertarienne. C'est-à-dire qu'au fond, cette idée que le contrat est capable de tout résoudre, que l'État doit se retirer de beaucoup de domaines, je ne conteste pas, enfin, moi je pense que l'État est allé à trop envahi au détriment des initiatives locales ou associatives ou autres. Mais enfin, on voit partout la montée de l'individualisme, la conception d'une société comme la somme d'intérêts individuels qui pousse la classe politique à faire du marketing politique. Et on fait du marketing, ça veut dire le marketing politique. Ah, ça veut dire qu'il n'y a plus de politique. C'est-à-dire qu'on demande au peuple, qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi ce que vous voulez. Alors bien sûr, il faut écouter le peuple dans sa diversité, dans ses contradictions. Mais si le marketing politique hein, est le fondement de l'action politique, bah, c'est la mort du politique. Voilà. Or, toute tendance confondue, c'est quand même souvent le cas. Quand vous voyez que certains ont essayé de diriger ce pays à coup uniquement de sondages, tous les matins, hein, qu'est-ce que demande le peuple? Eh bien, puisqu'il demande ça, on va faire un texte, ça va lui faire plaisir. Et eh bien là, vous tuez la notion de bien commun. La responsabilité des élus, c'est aussi d'essayer d'expliquer pourquoi il faut faire telle chose, d'essayer de faire prendre conscience des problèmes. La troisième cause, me semble-t-il, c'est est-ce que les structures étatiques et infra-étatiques, c'est-à-dire les collectivités territoriales, est-ce qu'elles sont adaptées à l'état du monde? Bah, la réponse, elle est clairement non. Et que le secteur économique, lui, s'est adapté à l'évolution du monde. Et que les États sont complètement débordés par des puissances qui se sont constituées bien au-delà des frontières, qui fait que beaucoup de nos concitoyens pensent que la politique est morte, qu'elle n'est plus capable de faire face aux problèmes posés par la société. Alors, c'est un peu dit, mais je trouve gentiment, et je partage aussi le sentiment de Marie-Noël Lindemann, je crois que c'est elle qui l'a dit tout à l'heure, qu'il y a une approche un peu trop franchouillarde. Hein, voilà, parce qu'il y a d'autres peuples qui ont une conception, je trouve, plus ouverte par rapport à la nôtre. Et puis, il y a une quatrième cause qui est, je dirais, assez spécifique à la France, parce que Marie-Noël Lindemann est députée européenne. Elle le voit. Tu es sénatrice, mais tu as été députée européenne. Donc tu l'as vu hein, dans les discussions, et tous nos collègues qui ont été députés européens de toute sensibilité disent que la grande différence entre la vie politique française et la vie politique européenne, c'est que comme il n'y a pas de majorité au Parlement européen, les gens sont obligés de s'écouter, de trouver des compromis. Alors il y a certains qui trouvent que c'est des neuneux, que tout ça c'est de la mollesse. Eh bien, ça aboutit, moi, je trouve, à de meilleurs résultats quand on est obligé de s'écouter et de composer que dans un système à la française où, le moins qu'on puisse dire, toute tendance confondue, c'est que les promesses non tenues ont quand même été dominantes. Et la perte de crédibilité de la politique, elle est liée à cela. Soit parce que les promesses ont été irréalistes, diront certains, que c'était intenable. Soit par cynisme politique, et le cynisme politique est quand même assez bien réparti dans la classe politique, qui consiste à dire, faisons des promesses pour être élus, de toute façon, s'ils sont assez trois lettres hein, pour nous croire, hein, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, comme disait un ancien président de la République, bien connu. Et pire, c'est le sentiment que la politique n'est plus capable de résoudre un certain nombre de problèmes de la société. Alors ça, c'est un syndrome franco-français. Je m'explique. Prenez l'une des grandes questions de cette société française qui est un niveau extrêmement élevé du chômage. Car ouvrir les fenêtres, il y a d'autres pays, je ne porte pas de jugement sur la situation sociale. mais qui ont un quasi plein emploi. Bon, c'est le cas en grosso modo en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Je ne porte pas de jugement sur la forme que ça a pris. Je constate que l'idée que la politique et que les acteurs économiques, parce que les politiques, ça n'est qu'un élément parmi bien d'autres, sont incapables de résoudre les problèmes de la société est faux, puisque ailleurs, certains ont réussi à les résoudre ou les atténuer considérablement. Mais en France, le peuple, peu à peu, pense qu'on n'a pas ça. Et puis, le dernier point, c'est la pipobilisation de la classe politique. C'est-à-dire que le grand jeu, c'est de faire du storytelling, de faire croire qu'on est ce qu'on n'est pas, hein, c'est-à-dire de faire rêver, alors que quand vous connaissez les dessous des cartes, vous êtes souvent étonné. Ouais, cette espèce de double langage où on fait semblant, quoi. On joue un jeu, voyez, comme si on était des acteurs de théâtre ou de cinéma, voyez, et on fait rêver. Alors, j'aurais pas la cruauté de prendre quelques exemples assez bien répartis dans toute la sphère politique, mais je vois que Marie-Noël en rit déjà. Bon, mais enfin, vous voyez à quoi on peut penser. Voilà. Alors, voilà pour une petite analyse rapide, je crois, des causes en France, parce qu'il y a des spécificités françaises. Hein. La crise, elle n'est pas aussi forte en Allemagne. D'ailleurs, quand on va voir nos collègues allemands et qu'on discute, quand on va au Bundestag, on est quand même frappé de voir leur capacité à dialoguer entre eux et souvent avoir des compromis très larges. Vous voyez, cette conception, j'y reviendrai tout à l'heure parce qu'elle me paraît plus chrétienne que notre conception à nous. J'y reviendrai française. Alors, je voudrais maintenant aborder la deuxième partie. Comme disait Lénine, que faire face à cette crise? Ben, la première chose, c'est de redonner du sens à la notion de nation. Parce qu'on a maintenant une part de nos concitoyens qui n'ont plus le sentiment d'appartenance à une nation. Et je partage ce qu'a dit aussi pour ceux qui sont chrétiens, et en particulier les catholiques. Catholicos en grec, ça veut dire universel. Bon. Donc, j'ai toujours trouvé et j'ai toujours défendu la conception française de la nation. Loin de moi de penser que cette conception doit être imposée partout dans le monde. Non, non. Il y a des histoires de nations très différentes des nôtres. Mais nous, on a une assez belle conception, puisqu'au fond, la nation française, et c'était vrai dès l'Ancien Régime, c'était adhérer à des valeurs communes. C'était pas une race, hein, une couleur de peau, voilà. Bien sûr qu'il y avait une langue, il y avait une histoire, etc. Mais vous auriez dit aux Bretons, il y a 10 siècles, qu'ils allaient devenir français, ils n'auraient jamais. Bon, et puis vous auriez dit, non mais attendez, il y avait à l'époque un peuple breton qui n'existe plus, qui avait les caractéristiques d'un peuple, c'est-à-dire une histoire commune, hein, des institutions politiques, une langue tout à fait particulière, hein, qui n'a rien à voir avec la langue française. Vous voyez, donc, il y a, bon, eh bien, tout ça, même si on a mis 10 siècles, hein, voilà, de rappeler cette conception. Ça vous paraît très abstrait, mais c'est une idée très chrétienne, puisque dans le christianisme, on ne vous demande pas la couleur de votre peau, on ne vous demande pas votre âge, on ne vous demande pas si vous êtes esclave ou homme libre, comme dit l'Évangile, on vous dit, si tu es croyant, voilà, c'est l'adhésion à des valeurs, à une foi qui te définit, et non pas tes caractéristiques sociales, ethniques, et j'en passe. Donc, ça, c'est un point, je crois, très important. On a eu ce débat, d'ailleurs, dans le cadre de ce triste débat sur la nationalité et la privation de nationalité, ouais, qui montre que cette notion, certains l'avaient perdue de vision. Et puis, croire qu'on peut améliorer les choses, que les êtres humains, je crois que Marie-Noël l'a dit, que les êtres humains peuvent améliorer les choses par leur inventivité, que ce soit la science, mais la science n'est qu'une partie de tout ça, qu'on peut, que l'idée de progrès, on aurait pu dire au 19e siècle, parce que l'idée de progrès a pris beaucoup de plomb dans l'aile. Hein. Bon, la notion de progrès, le christianisme a toujours été prudent en disant que le progrès est possible, mais que le progrès en tant que tel, ceux qui ont cru au 19e siècle, que le progrès scientifique, technique, allait amener l'humanité à la béatitude céleste, ben ils n'ont pas été déçus du voyage. Hein. Bon, donc, je partage avec Marie-Noëlle. Moi, j'aime la science, j'aime les techniques, et je pense que c'est l'un des outils qui peut permettre de résoudre un certain nombre de problèmes que connaît ce monde et notre peuple, mais que ça ne suffit pas à soi-même. Le troisième axe, c'est le problème d'avoir une éthique dans le personnel politique. Alors, c'est un sujet un peu compliqué, parce que si on remet l'éthique au sein du personnel politique, bah, je crois que les chrétiens sont toutes tendances confondues, parce qu'ils sont assez divers, de rappeler un certain nombre de choses. L'honnêteté, c'est un terme, paraît-il, complètement vieillot. Eh bien, l'honnêteté et la modestie. L'honnêteté, c'est dire la vérité. Il y a une phrase très dure dans l'Évangile, que quand vous dites c'est oui, et quand c'est non. Voilà. Et l'absence de vérité, travestir la réalité à des fins politiques, aboutit toujours à des désastres. Et donc d'avoir le courage de dire, et la vérité n'est pas toujours facile à cerner, c'est vrai, mais d'avoir un devoir de vérité, de ne pas se raconter d'histoire. Et l'autre chose, c'est donc l'honnêteté intellectuelle, hein, face aux problèmes posés, et puis l'honnêteté dans sa vie personnelle, c'est-à-dire l'honnêteté financière, il y aurait beaucoup à dire. Alors, naturellement, comme toujours, on ne parle que des crapules dans la classe politique. Vous savez, je dis, les hommes politiques honnêtes, c'est comme les femmes honnêtes, ça n'intéresse personne. Voilà, vous ne faites jamais la une d'un journal en disant, ou après 40 ans de vie commune, il s'aime encore. Ça, ça n'intéresse personne. Par contre, si au bout de 40 ans de vie commune, il l'assassine après l'avoir violé, ça c'est formidable, vous faites la une. Bon, dans la classe politique, oui, bah, on a notre pourcentage assez bien réparti dans tous les groupes de canailles. Bon, mais voilà, c'est quelques pourcents. Hein. Ce qui est dur pour les gens qui essaient d'être intègres, c'est que l'opinion publique est persuadée à 75-80% que la classe politique est composée de crapules. Non, non, mais c'est terrible quand vous voyez les sondages sur la vision et qu'on est là pour deux raisons, s'en mettre plein les poches et satisfaire nos égos. Eh bien, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai au niveau local pour l'immense majorité de nos collègues. Et ça, les évêques le rappellent sur la dignité hein, de la fonction d'élu, d'autant plus que quand on est honnête, on ne s'enrichit pas en étant élu. Donc ceux qui sont enrichis en étant élus, c'est qu'il y a d'autres causes d'enrichissement. Voilà. Et donc, d'avoir en la matière une éthique et accepter le contrôle. L'accepter. Vous voyez, on vient de voter tout à l'heure, là, il y a quelques heures. Un renforcement, alors on peut toujours dire que c'est imparfait, tout ce qu'on veut peut-être, mais bon, qui va quand même dans la bonne direction sur cela. Et puis, d'avoir des vies, chacun a ses faiblesses, mais d'avoir des vies cohérentes avec le discours. Ça s'appelle l'exemplarité. Chez les catholiques, on appelle ça les saints. On ne demande pas à toute la classe politique d'être des saints. Hein, il y en a de temps en temps, parmi nos collègues, il y a quelques saints. Ils ont bien du mérite, d'ailleurs, dans ce milieu. Mais qui est des gens, oui, les évêques, d'ailleurs, l'évoquent hein, dans le texte. Ils citent quelques-uns, même s'il a eu des faiblesses, Schumann. Hein, on cite aussi Michelet. Voilà, ils auraient pu citer un ou deux autres situés un peu plus à gauche. Bon, voilà. Non, mais je veux dire, il y a des gens bien dans tous les milieux politiques. Il y a aussi des crapules partout. Bon, mais je pense que le comportement des élus, c'est très important. La troisième chose dans l'éthique, c'est de respecter ses adversaires et concurrents. De ne pas dire et faire n'importe quoi pour abattre ses adversaires et ses concurrents. Et moi j'ai toujours, il y a une phrase dans l'Évangile, c'est qu'il y a beaucoup de maisons dans la maison du Père, voilà, dans le royaume des cieux. Bien. Et bien c'est la même chose en politique. Bon, j'ai toujours pensé que même si je partage, je ne suis pas un homme de gauche, comme chacun le sait, Mais je pense que la gauche a apporté quelque chose au débat politique. Je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut écraser la gauche, vous voyez. Et symétriquement, il y a des collègues à gauche qui pensent que nous, à droite, au centre, on est tous des pourris, les représentants du grand capital. Bon, il faut arrêter ce genre de choses. Bon. Et que chacun accepte la diversité de l'autre et qu'il accepte de travailler avec lui. Alors, c'est plus facile en France au niveau local. Au niveau local, il y a beaucoup plus, je trouve, de coopération. Moi, ça fait 31 ans que je suis au Conseil général de la Marne, ben avec les collègues de l'opposition, qui sont socialistes, puisqu'il n'y a plus de communistes chez nous. Ben on travaille, je dis, bon, et nos collègues ont quand même le droit de s'exprimer et parfois d'influencer et de modifier tel ou tel point en disant, mais ils ont raison, en fait, de dire ça, pas avoir attitude, parce que ça vient de l'opposition, c'est niet. Alors, au Parlement, la tradition, c'est quand l'opposition proposait un truc bien, la majorité leur prenait à son compte, voilà. C'est enfantin. C'est enfantin. Donc, de respecter ses adversaires, penser, et ça, les évêques le disent, que la vérité naît de la confrontation des opinions et non de la négation de l'autre. Et qui ne pense pas comme vous. Vous voyez, on a eu sur des débats éthiques un débat récemment sur l'euthanasie. Je connais un peu l'un des responsables au Parti Socialiste, c'était Alain Claisse, de ces questions. Il avait été mon rapporteur dans l'affaire Cahuzac. Alors, ça crée des liens. Et après, moi j'étais assez proche de l'autre collègue, qui est plutôt notre sensibilité, dans ses positions assez prudentes et équilibrées. Et je discutais à la fin de leurs travaux, puisqu'ils ont fait un travail ensemble, avec Alain. Et Alain me disait, tu sais, moi j'étais favorable par principe à l'euthanasie. Eh bien, à l'issue de tous ces travaux, j'ai évolué. C'est-à-dire qu'il a accepté d'écouter l'autre, et ils ont proposé une solution commune, une position commune, ce qui est quand même une force sur ces questions éthiques. Alors, naturellement, il y a toujours les extrémistes des deux bords qui dénoncent la mollesse, que c'est pas cohérent, vous voyez. Eh bien, c'est une illustration sur des affaires, je prends volontairement une affaire très qui relève de l'intime et surtout de valeur, de sur le fondement de l'être humain, de l'humanisme. Marie-Noël en a parlé tout à l'heure. Il y a quand même des sujets dans lesquels on peut quand même essayer de s'écouter pour essayer de trouver une règle applicable en plus, hein, et avec un assez large consensus. Et puis, l'autre et dernier point, c'est être capable de remettre en cause nos structures, qu'elles soient au niveau local, qu'elle soit au niveau national et international, parce qu'on voit bien qu'un certain nombre des problèmes qu'on essaie de résoudre, eh bien, on n'y arrive pas, parce qu'on veut les résoudre dans un cadre national ou parfois local. Alors, il y a des tas de choses qu'on peut parfaitement résoudre au niveau local. La politique du logement, puisque Marie-Noël s'en est occupée pendant quelques années, n'attendons pas de l'Union européenne, je ne sais pas quel truc, c'est à nous de nous occuper de nos affaires. Et plus on s'en occupera au niveau local, moi je pense, mieux on se portera. Parce que la France est très diverse. Vous voyez. Donc de faire confiance. Et de rappeler l'espérance. C'est-à-dire que les chrétiens, dans leurs différents engagements, dans les différentes familles politiques, soient un facteur d'espérance. Et de calmer au sein de sa propre famille ceux qui dérivent. Voilà. Hein. Et que chacun s'en occupe dans chacun de ses sensibilités politiques. Ouais. Et je pense que c'est un peu à ces conditions qu'on pourra redonner du lustre, de la crédibilité et d'attirer dans les fonctions politiques des gens de qualité. Je dis ça parce que, alors, il paraît que c'est un syndrome de vieillissement. Je ne sais pas si Marie-Noël, tu es aussi atteinte par ce syndrome. Ouais, ça ne fait que 24 ans que je suis député. Et toi, ça doit être à peu près le même ordre. Non, un peu plus. 30 30 et quelques années. Bon. Eh bien, quand on discute avec les différents collègues, les différentes sensibilités, on a tous un peu le sentiment d'une certaine pas utiliser des termes qui choquent, dégradation, baisse de qualité, du recrutement. Mais l'une des raisons, c'est que s'occuper des affaires publiques, c'est très dur. C'est très dur, surtout si vous avez une certaine valeur, si vous voulez, de renoncer à utiliser le mensonge, la calomnie, tous les moyens qu'on a pu... Voilà. Et donc, je pense que c'est à ces conditions-là que les chrétiens pourraient essayer de redonner une certaine espérance autour du thème qu'on peut améliorer les choses. C'est d'ailleurs l'une des conclusions, dans la conclusion du texte des évêques, quand ils disent « Il y a beaucoup de richesses cachées dans les cœurs et de l'espoir qui vient de l'action de beaucoup, mais souvent ces actions ne sont pas mises en lumière. » Et donc d'arrêter cette espèce de désespérance française sur le déclin inéluctable, etc. Vous voyez, je pense que la responsabilité des élus, c'est de dire on peut s'en sortir, il y a des solutions. Et d'ailleurs, certains nous ont déjà mis en route au niveau local, etc. Et d'essayer de généraliser cela. Voilà, d'être des facteurs d'espérance et, je dirais, de... plus de rassemblement que de division et d'affrontement stérile.
Merci beaucoup. Merci Charles de Courson de ce que vous nous avez partagé de la lecture de ce texte où vous avez dit que c'était un texte qui était peut-être plus fort dans l'analyse de la crise que pour donner des axes pour sortir de cette crise. Alors, vous avez précisément essayé de repérer des lieux très concrets sur lesquels il était possible d'agir, et notamment en s'appuyant sur les ressources du christianisme. Je les rappelle, redonner du sens à la notion de nation, adhérer à des valeurs communes, croire qu'on peut améliorer les choses, avoir une éthique dans le personnel politique, honnêteté, modestie, accepter le contrôle, le respect de ses concurrents, être capable de remettre en cause nos structures. Alors autant de choses sur lesquelles évidemment il y aura possibilité de réfléchir les uns et les autres. On a fait déjà exploser le temps, mais ça valait tellement la peine que je crois que je ne voulais évidemment pas couper la parole à nos intervenants avant. Mais gardons quand même, si vous le voulez bien, le temps de l'échange maintenant pour ceux qui peuvent encore rester un peu avec nous. Et je vous propose de prendre sans plus tarder quelques questions ou réactions, convictions.
Oui, merci pour vos interventions. J'ai deux questions. Premièrement, compte tenu du tour que prennent les choses avec la préparation des élections, l'attitude de nos concitoyens, je prends l'exemple, Marie-Noëlle Lillemann l'a dit, des réactions très très négatives sur le problème des migrants, alors que nous sommes peut-être au début des grandes migrations mondiales. Je me demande si ce que disent les évêques, voilà où on en est, mais nous ne donnons plus d'injonctions. Je me demande s'il ne va pas falloir en redonner, sur certains thèmes. Ma deuxième question, nous avons vu dans le journal Le Monde d'avant-hier, je crois, une enquête sur les sentiments qu'ont les Français sur ce que devrait être la politique revue et corrigée, à savoir plus de 20% souhaiteraient un régime autoritaire. Mmh. Vous avez dit les uns les autres combien le régime autoritaire peut peut-être bien commencer. Le despotisme éclairé, ça paraît-il exister. Ça finit toujours très très mal. Qu'en pensez-vous?
Merci. On va prendre la question qui nous vient de Bordeaux.
Alors une question de Philippe de Bordeaux. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le Christ semble ne pas avoir pratiqué l'engagement politique, mais plutôt l'engagement civique. Que pouvez-vous nous en dire?
On va prendre une troisième réaction ou question. Au milieu, voilà, levez bien la main pour qu'on vous voit. Voilà.
Si, parmi les possibilités peut-être pour améliorer les rapports entre les hommes politiques et l'opinion et les citoyens, ne croyez-vous pas que la limitation des mandats dans la durée, et deuxièmement, également la limitation du cumul des mandats serait vraiment un élément important pour réaménager, renouveler, si vous voulez, le personnel, et je pense changer le regard que souvent les jeunes en particulier ont à l'égard des politiques.
Merci. On va redonner la parole à nos intervenants pour essayer de répondre à ces questions. Je sais que c'est des questions qui sont très importantes et très larges, mais autant que c'est possible d'avoir des réponses brèves, autant que c'est possible, pour permettre de pouvoir redonner la parole. Peut-être sur la question de est-ce qu'il ne faudrait pas redonner des injonctions vu l'importance des problèmes, Philippe ?
Deux remarques sur ce point. D'abord, il y a eu des injonctions tout au long de la période post-conciliaire, sur en particulier les orientations électorales. Alors, on n'est plus dans la situation que certains d'entre nous ont connue dans les années 1950, où les curés en chair, parfois, c'était plus net sous la Troisième République, mais indiquaient quels étaient les ennemis de l'Église et au contraire ceux qui étaient les amis du grand corps catholique. Il reste que dans les années 1970-1980, vous avez des prises de position. La première prise de position, c'est une prise de position du début des années 1970, quand vous avez une tentation communiste au sein de la militance catholique. Et alors, on accepte volontiers, quand on est évêque, alors, je me souviens en particulier des textes de Mgr Matagrin, que l'on puisse adhérer au socialisme. Mais toujours avec une limite, cette adhésion au socialisme vaut à partir du moment où ce socialisme n'est pas marqué par un marxisme révolutionnaire. Ça, c'est un premier élément qui apparaît en particulier dans le texte de 1972 pour une pratique chrétienne de la politique. Et vous vous souvenez peut-être que dans les années 1980-1990, Mgr de Courtrai d'un côté, Mgr Lustiger de l'autre, étaient intervenus avec énormément de force pour indiquer qu'il y avait des votes qui étaient tout de même extrêmement problématiques. On ne pointait plus alors les votes en faveur du Parti communiste qui avait perdu une grande partie de sa substance, mais les votes en faveur du Front national. Et en effet, à partir des années 2000, tout début des années 2000, on voit que cette injonction disparaît des textes. Alors, il faudrait s'interroger sur cette disparition. Je pense que ça tient à deux types de facteurs. D'une part, il faut bien le dire, à une évolution du discours du Front National tout au long des années 2000, avec, quand on lit les programmes, on s'en aperçoit très bien, une adhésion probablement formelle, aux règles de la démocratie constitutionnelle, ce qu'on ne voyait pas dans les discours de Jean-Marie Le Pen dans la période immédiatement antérieure, et encore moins d'ailleurs dans les programmes du Front National. Puis le second point, c'est un point que nous n'avons pas encore évolué, une évolution de l'Église catholique elle-même sur un terrain qui marque davantage l'identité que l'ouverture, en tout cas dans certaines de ses sphères. J'ajoute un point cependant. Hier, si vous le permettez, j'étais en effet avec les évêques. Une conversation extrêmement agréable et riche, j'ai trouvé. Et en effet, nous avons abordé la question que vous venez de dire, non pas sur le problème de l'injonction en matière électorale. La question ne se posait pas sur ce terrain-là, elle se posait sur la question des principes. Et un certain nombre d'évêques m'ont dit, mais finalement, est-ce que dans notre société, nous pouvons encore parler en termes de principes intangibles, fondés en particulier sur l'affirmation de l'axiome de la dignité humaine ? Alors, je ne me suis pas permis de prendre leur place. J'ai essayé d'exposer un certain nombre de modèles philosophiques qui permettent de répondre à la question, mais j'ai vu ensuite, dans la discussion qui est venue, que leur idée est la suivante. On peut en effet valoriser une culture du débat, une culture de la délibération. Mais ça n'est jamais une culture du débat ou une culture de la délibération absolument relativiste. Ce qu'on connaît en philosophie politique, vous avez des auteurs comme Rorty qui disent « la discussion peut mener n'importe où ». Rien de tel chez les évêques. C'est-à-dire que la discussion doit toujours, tout de même, avoir des conditions préalables. Ce que vous avez très bien dit, qui est la condition en effet posée par l'humanisme, il y a cette idée que l'autre est un autre moi-même, une personne libre et égale, que je dois nécessairement respecter. Et ils en concluaient hier, dans la discussion que j'ai pu avoir avec eux, que précisément, il est un certain nombre de forces politiques, un certain nombre de forces sociales, qui ne respectent pas ce principe structurant de notre vivre ensemble, qui est le principe suivant lequel chaque personne est en effet une personne libre et égale, quelle que soit son appartenance nationale.
Merci. Sur le point de, ça n'empêche pas peut-être d'ajouter sur ce qui vient d'être dit, mais sur la question de la tentation autoritaire souhaitée par un certain nombre, voilà, c'est effectivement un risque auquel il nous faut être très vigilants.
C'est une constante de toutes les sociétés qui vont mal. Vous avez toujours une partie d'opinion publique qui dit il faut me trouver un Napoléon. J'appelle la tentation bonapartiste, hein, et qui remettent de l'ordre. Bon, voilà. Donc on a besoin d'un homme fort ou d'une femme forte, hein, pour remettre de l'ordre dans la maison. C'est une tentation, c'est les grenouilles qui demandent un roi, hein, c'est pas nouveau. Bon, et l'histoire de la France et d'autres peuples d'ailleurs, mais c'est plutôt un signe. C'est pas l'homme, le régime autoritaire qui remet en ordre dans le pays. Pourquoi faire ? C'est pour faire quoi ? Comment résoudre les problèmes de la France ? Donc, mais c'est toujours l'illusion, si vous voulez, de s'en remettre à d'autres. Au lieu de dire qu'est-ce que je peux faire, moi, et avec les autres, et avec d'autres forces, notamment politiques, mais pas simplement que les forces politiques, les forces sociales. Hein, la politique, ce n'est qu'une petite partie de la société. J'en profite pour répondre à la question sur l'engagement civique par rapport à l'engagement politique. Ben bien sûr, heureusement, il y a une multitude d'engagements qui ne sont pas de nature politique, qui font vivre la société. L'engagement associatif, l'engagement dans l'entreprise, l'engagement dans la famille, enfin que sais-je, dans beaucoup d'engagements. La politique, ce n'est qu'une partie. Voilà. Alors, il y a aussi une question sur la limitation des mandats. Moi, j'étais favorable, même si bon, nos collègues sont allés trop loin, sur le problème des cumuls. Je pense que la France acceptait, vous ne pouvez pas être parlementaire et président de région, président de département. Soit vous faites bien votre boulot de président de département, de région, soit vous occupez de votre mandat national au détriment des autres. Et puis il y a d'autres aspects, ça permet de renouveler aussi la classe politique, d'éviter la trop forte concentration du pouvoir. Mais c'est vrai que le pays serait plus décentralisé qu'il n'est. À l'allemande, vous voyez, beaucoup d'hommes et de femmes politiques allemandes préfèrent faire une carrière locale qu'une carrière nationale. Voilà. La limitation dans le temps des mandats, moi, je suis prudent. Pourquoi ? Parce qu'il faut du temps, il faut un apprentissage. Et si vous remplacez tous les 5 ans, vous voyez, tous les députés ont dit un seul mandat, ça suffit. Après, allez faire autre chose. Comme ça, vous retournerez. Vous savez, cette tentation trotskiste, ce que j'appelle. Ça a toujours très mal tourné. Hein. Vous savez que l'Assemblée constituante avait décidé de cela à l'époque. Pour montrer leur désintéressement, ils ont dit il est interdit à tous les membres de l'Assemblée constituante, hein, de... Ça a été une catastrophe. D'ailleurs, c'est un élément parmi d'autres de la dérive du grand mouvement de réforme qui était de 1989-90, qui après a dérivé dans un système, alors là, épouvantable. Hein. On tuait, on assassinait, enfin, vous voyez, un régime totalement autoritaire, quoi, et dictatorial. Alors, il y a un dernier point auquel je n'ai pas répondu, c'est est-ce que les responsables de l'Église, c'est-à-dire les évêques, doivent s'engager. Ben, je dirais, ça dépend dans quelles questions. Il y a des questions qui mettent en cause l'humanité, enfin, et l'essence de l'être humain pour les chrétiens, les catholiques en particulier, mais les chrétiens. Et donc là, vous voyez, quand on parle de questions de bioéthique, d'euthanasie, dans des questions comme cela, là, je pense que ça enrichit le débat politique. Que les évêques prennent une position et viennent l'expliquer à toutes les composantes de l'arc démocratique. Et je pense que ça enrichit le débat. Parce que parfois, on a une vision parfois un peu limitée ou étriquée, si vous voulez. Donc ça enrichit. Et pas simplement les chrétiens, hein, les musulmans, c'est intéressant. Vous voyez, avant de légiférer. Mais de là à dire ce qu'on doit faire, les chrétiens sont majeurs et vaccinés, voilà. Hein, voilà. Voilà. En plus, ils ne suivent pas. Vous savez, c'est comme les partis politiques, ils peuvent dire des trucs, les électeurs, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Bon, voilà,
c'est bon signe, peut-être.
Voilà. Oui, d'une certaine façon. Oui.
Marie-Noëlle Lindemann.
Alors, sur la fermeté, enfin, le redonner des injonctions, alors je pense comme vous, que redonner des injonctions venant des évêques, d'abord, à la différence, je pense que prendre des positions de principe me paraît important, Parce que dans une société où il n'y a plus de repères, il faut qu'il y ait des gens qui assument des principes et des repères. Même les plus catholiques se trouvera de toute façon avec son libre arbitre par rapport à ces repères. On le voit bien dans tous les sondages, les catholiques ne suivent pas forcément, mais c'est un repère, une balise. Et on en a besoin, ça nous ramènera un peu au totalitarisme. Alors pour autant, ce que je crois le plus important, parce qu'on voit bien qu'il y a besoin d'une fermeté de réaffirmer les principes de respect de l'autre, de l'amour de l'autre, de ce que vous avez parfaitement décrit, et on voit comment l'actualité nous frappe quand même d'une certaine tétanie collective devant la montée des gens qui rejettent l'autre, qui etc. Alors moi je crois quand même, et là pour le coup, je suis quand même frappée de la différence entre les églises protestantes allemandes et l'église catholique française. Vous allez dans toutes les paroisses protestantes allemandes, il y a des groupes de gens organisés autour du pasteur ou pas, enfin bon, qui sont organisés pour dire on doit accueillir les migrants. Ça n'empêche pas que la société allemande ne vote pas comme un seul homme, youpi, plus généreuse la société française. Mais si j'allais dire, le peuple chrétien protestant est en mouvement. Là, nous avons nos évêques qui disent des choses très bien. Mais je ne trouve pas que le peuple catholique français est en mouvement. Il y a des paroisses, il y en a. Mais vous n'allez pas systématiquement dans une paroisse, à 80% de nos paroisses, avec un petit mot disant « les amis qui veulent soutenir machin, faites-vous signaler, etc. » Donc ce qui m'importerait aujourd'hui, c'est la question que je me pose, c'est comment on peut avoir l'affirmation de principes forts qui sont utiles pour les repères, et pas seulement sur les questions éthico-philosophique, mais aussi sur le rapport à l'autre, l'amour de l'autre, mais qu'on arrive à mettre en mouvement. Je trouve ça plus efficace que l'injonction et le principe, parce que c'est parce qu'il y aura un mouvement dans la société qui apparaîtra un peu vivant et visible qu'à mon avis, on a quand même une plus grande efficacité pour convaincre. Deuxièmement, le régime autoritaire. Toutes les périodes de crise amènent à la tentation du régime autoritaire de chercher le chef, parce que quand on n'arrive plus à créer de l'ordre en commun, eh ben, on cherche quelqu'un pour décider l'ordre tout seul. Évidemment, ça se termine toujours mal. Donc, il y a quand même, pour répondre à ça, pas simplement à dire qu'il y a toujours eu des crises et attendre que la crise soit résolue, ce qui par ailleurs est souhaitable, mais n'est pas rapide. Enfin, rarement rapide. Donc, la question qui est posée, c'est plutôt de se dire comment on reconstruit de l'ordre commun. C'est-à-dire, il faut redébattre de la politique au sens noble. Il faut débattre de notre projet de société. Il faut redonner des repères. Aujourd'hui, on est silencieux sur les grands enjeux. On a 3 heures de discussion sur 300 000 fonctionnaires de plus, de moins. Alors nous, c'est la compétitivité comme ci ou comme ça. Bref, mais des vrais débats, d'irriguer la société française de débats sur le sens, et là, ils le disent très très bien, et ça ne viendra pas du politique. Je m'excuse, ça n'est jamais venu des politiques. Il y a eu des crises régulières du politique. Qu'est-ce qui les a fait régénérer? Les clubs de réflexion, les revues, les engagements associatifs. Bon, j'ose espérer qu'on n'ait pas besoin d'une guerre pour se remettre en situation de se reposer des questions fondamentales. Mais on voit bien qu'il y a ça qui me paraît nécessaire. Si on veut essayer de convaincre qu'il y a des solutions collectives, il faut participer à essayer de les formuler. Troisièmement, l'engagement civique par rapport à la... Ça, c'est un des sujets qu'on a avec nos amis musulmans. Parce que ce qui est à Dieu, César à César, ça a commencé dès le gallicanisme, hein, Philippe le Bel, etc., la séparation, bon, même si on a vu qu'après l'Église a repris un pouvoir politique. Mais Jésus-Christ n'a jamais été un acteur politique. Le prophète Mohammed a été, enfin je ne sais pas, on disait le maire à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça, mais de Médine. C'est-à-dire, leur prophète s'est trouvé confronté à l'organisation et la gestion de la société et a prétendu le faire. Ce qui fait d'ailleurs que vous avez toute une série de textes dont on peut se demander, quand on n'est pas musulman, s'il ne procède pas plutôt de l'organisation de la vie collective à Médine à l'époque, plutôt que d'une pensée, un truc. Jésus-Christ a voulu s'extraire de cela. Il ne s'est pas désintéressé des hommes, mais son message, quelque part, avait son côté atemporel et gestionnaire.
Il a refusé d'être roi.
Et voilà. Donc, ça me paraît un débat important à avoir. Et quelque part, si la France est laïque, c'est aussi parce qu'elle est chrétienne. C'est-à-dire, il y avait quand même dans les capacités originelles du message de Jésus-Christ, l'idée qu'on pouvait séparer ce qui procédait de la gestion des choses de l'accompagnement des âmes, hein, même si c'était évidemment moins formel. Donc je crois que c'est un des débats importants qu'on doit avoir sur la laïcité d'aujourd'hui. Hein. Et je crois quand même que là, les chrétiens doivent plutôt arbitrer dans le sens de la laïcité, au sens de justement de bien... Alors absolument pas d'interdire la présence de la religion dans l'espace public, alors, ce serait une folie furieuse. Là, si vous voulez enterrer la laïcité, il suffit de faire ça. C'est comme les communistes qui interdisent la religion. Ils peuvent toujours. Il y en a encore plus après qu'avant. Donc là, ce qui me paraît important, c'est effectivement de voir quel est l'ordre de l'affirmation du champ de cette religion. Et après, il y a un deuxième sujet, parce qu'on parle de la vérité. Et quand on parle de l'engagement civique, le risque est grand de faire que sa vérité devienne la vérité. Hein. Ça, c'est quand même... Alors, limitation du mandat, je suis pour la limitation du cumul des mandats, absolument opposée à la limitation des mandats dans le temps, parce que c'est trop facile. Je suis mandaté, tant pis si je ne suis pas réélu, je signe vous ce qu'il faut faire. Ben non, le fait de redevoir faire son vote est un exercice sain en démocratie. Si on pense qu'on peut s'affranchir, on s'en fout, on ne sera pas réélu, la tentation totalitaire peut être non négligeable. Donc je suis pour une certaine durée des mandats, on n'est pas obligé d'en faire 35 de suite dans le même.
Oui, enfin, il y a un dernier point qui n'a pas été...
Brièvement.
Oui. C'est très rapide, oui. Qui est, ne faut-il pas mettre limite d'âge ? Moi, c'est ma position. Hein. Je pense que 65, 70 ans pour la dernière candidature, c'est pas mal. Hein. Parce que j'ai trop vu d'hommes et de femmes politiques qui ont mal fini alors qu'ils avaient bien servi pendant des années parce qu'ils ne sont pas partis à temps. Voilà.
Merci. Je redonne la parole à Philippe Portier sur cette question, sur ce débat qu'on a là autour de rendre à César ce qui est à César et puis on en restera là.
Oui, juste une remarque. C'est une des phrases les plus complexes de l'Évangile et qui a donné lieu évidemment à des interprétations qui sont des interprétations extrêmement contradictoires, extrêmement différentes. Pour prendre simplement l'époque contemporaine, peut-être certains d'entre nous ont-ils le souvenir de cet article du Figaro de l'amiral de Joybert. Nous sommes en 1971 et on évoque, peut-être en avez-vous le souvenir, la question des armes nucléaires. Et l'amiral de Joybert intervient par un article qui est intitulé « Messieurs de la prêtrise, mêlez-vous de vos oignons ». Et il y avait dans cette phrase qui visait à contredire les affirmations de l'épiscopat, qui visait précisément à restreindre la possibilité d'essai nucléaire, il y avait une interprétation très séculariste de la phrase « rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu », comme si précisément les deux domaines étaient à ce point différents, à ce point étanche, à ce point hermétique que l'Église, les chrétiens en Église, ne pouvaient pas intervenir dans l'ordre temporel. Alors, ça n'est pas évidemment la tradition qui l'a emporté au sein de l'Église. Dans un premier temps, l'Église interprète cette phrase comme étant l'injonction faite à l'Église, faite aux chrétiens, d'intervenir au nom de Dieu dans le domaine de l'homme. Dans un premier temps, cette vision a pris la forme d'une stratégie de pouvoir. L'Église était sacerdotaliste et visait précisément, au nom de la suprématie de Dieu sur César, à prendre le pouvoir dans la société. On voit bien, quand on lit les textes de l'époque post-conciliaire, qu'on n'en est plus là, et que l'Église ne prétend jamais, dans ces textes, vouloir s'imposer au nom d'un principe de pouvoir, au nom d'un principe théocratique, mais c'est toujours dans une vision qui est une vision d'aide, une vision subsidiaire, qu'elle se place au service des individus dans la sphère politique elle-même. Il faut lire de ce point de vue le dernier texte ou l'un des derniers textes du pape François autour de Laudato Si, où il dit très clairement, vous savez, moi j'interviens dans le cadre des affaires sociales, non point pour vouloir imposer l'Église comme instance de pouvoir, mais pour proposer avec l'Église une instance de sens permettant à la société de retrouver en effet ses requêtes d'humanité. Je voudrais juste ajouter un tout petit mot, François, qui me mettra un peu en écart avec Marie-Noëlle Lindemann et Charles de Courson sur le caractère franco-français du texte. Je ne l'ai pas reçu comme cela. Et je ne l'ai pas reçu comme cela parce que je pense que les enjeux qui sont à l'œuvre dans la société française aujourd'hui sont des enjeux partagés par la société européenne. Et j'en veux pour preuve simplement les enquêtes sur les valeurs qui ont été développées par l'Union européenne depuis le début des années 1980, tous les 9 ans, avec des enquêtes très régulières auprès de toutes les populations européennes. Et on s'aperçoit en effet que nos propres problèmes sont des problèmes partagés. Je voudrais en citer 3, simplement. Le premier élément, c'est le problème de la confiance à l'égard des acteurs politiques. Nous ne sommes pas les seuls à nous poser la question de savoir si nos acteurs politiques sont susceptibles, en effet, de conduire les affaires humaines. Nous le ressentons différemment parce que nous avons une tradition d'étaticité dans la société française. Cette idée que c'est par l'État qu'on transforme la société. Les autres peuples, probablement pas. Pas autant, en tout cas. Et cela nous vient, en effet, d'une vieille tradition tout à la fois régalienne et jacobine. Il reste que dans les autres sociétés, en particulier dans les sociétés du sud de l'Europe, il y a une profonde crise du politique qui s'exprime dans des indices de confiance qui sont des indices de confiance très faibles. Deuxième remarque, la question de la fermeture en particulier, c'est une question qu'on retrouve dans la plupart des pays européens, sauf peut-être... Mais depuis un certain temps, avec une évolution en dépit de son libéralisme natif, du côté de la Grande-Bretagne. Mais on a bien vu avec le Brexit que tout se jouait autour du conflit entre une culture de la fermeture et une culture de l'ouverture. Et même là, en dépit de la tradition libérale, c'est une culture de la fermeture qui l'a emportée à la faveur du fameux référendum autour du Brexit. Puis le troisième élément, qui est un élément extrêmement important et qui vaut dans tous les pays d'Europe, c'est la volonté de réenracinement de la plupart des peuples européens et sur une base qui est très substantielle, une base qui est une base de la rétraction sur soi, une sorte de réaffirmation des cultures nationales à partir d'une exaltation des racines chrétiennes. Et cette exaltation des racines chrétiennes, le pape François nous apprend, d'une certaine manière, à la questionner, à la réfléchir. J'ai moi-même essayé de donner une interview au Monde sur cette question, en montrant que probablement nous sommes marqués par une culture chrétienne, mais beaucoup plus plurielle qu'on ne le dit. Et que cette culture chrétienne, à partir en effet du XIXe et du XXe siècle, se transforme, s'ouvre davantage aux principes d'autonomie, aux principes de subjectivité, montrant finalement que nos sociétés sont des sociétés extrêmement plastiques. Ce qui explique pourquoi le pape François disait, finalement, cette notion de racine chrétienne, c'est une notion qui est une notion colonialiste, et il faut plutôt travailler avec l'idée d'un univers social qui se constituerait autour de la pluralité des appartenances.
Merci.
Nous avons largement dépassé les horaires, mais je crois que c'était important de pouvoir prendre ce temps. Beaucoup de champs sont ouverts ce soir sur un sujet qui, je trouve, est souvent présenté de façon sombre, le rapport à la politique. Et j'ai le sentiment, en tout cas pour ma part, que nous en ressortons plutôt avec de l'élan, avec le sentiment que nous pouvons prendre notre place pour apporter notre contribution au vrai débat. Et je remercie donc nos intervenants ce soir, de votre part, de nous avoir aidés à cela. Vous pourrez trouver donc le texte du Conseil permanent à la sortie pour ceux qui ne l'auraient pas encore et qui voudraient le lire. Et puis je vous rappelle que la prochaine soirée, le 6 décembre, sera donc sur le rôle et l'évolution de la Turquie. Merci et bonne soirée à tous.